C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
C'est allez, bon. Dernière fois.
Zou.
Allez les gars, courage.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti.
Japon, mon amour. Après Hiroshima est arrivé Fukushima, une ignoble nuée de plus au pays des arts martiaux et des sushis. Mais peine perdue, rien ne saurait gâcher la beauté de cette culture zen. Oublions un instant Sendai et son tsunami. Oublions un instant ces images de désolation. Oublions un instant la pleutrerie et la bassesse des dirigeants de ce monde. Penchons-nous un peu plus sur ce qui est beau au Japon. Non pas pour mettre un voile sur l'horreur, mais plutôt pour connaître encore mieux ce que la folie des hommes est en train de gâcher. Et s'il fallait tout simplement qu'on retrouve notre âme de gosse.
Tu me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu tôt si t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christ, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salauds vendus, de représentants de la force publique. T'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs. Tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Des peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic. Soyez-en sans flexibilité de la volonté de l'autorité publique. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici, avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Un un gamin de Zoufris Maracas, CD de la semaine, pour ouvrir ce vivement sushi qu'on bouffe du vendredi 28 octobre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zed, tu es là Zed? Oui,
bonjour. Et bonjour.
C'est fabuleux.
Audrey.
Ah, vas-y, redis-le Zed, c'est beau.
Je redis bonjour Audrey.
Oh là là, tu pourrais dire bonjour aux auditeurs. Pour une fois qu'ils t'entendent, sois poli.
Oui, j'avoue que c'est assez exceptionnel. Alors bonjour chers auditeurs que je ne connais pas.
Bon, merci Zed. Aujourd'hui, du Japon, en veux-tu, en voilà, parce que c'est d'actu en Sud Aveyron ce samedi avec Kotoé qui vous invite à une soirée sushi et discussion au lieu-dit et au château de Saint-Isère, une journée voix japonaise. Une fois n'est pas coutume, il y aura donc deux chemises à rayures aujourd'hui. Il faudrait peut-être parler de kimono à rayures, puisque le Japon est vraiment, vraiment à l'honneur ce samedi. Tout d'abord donc au château de Saint-Isère, vous pourrez vivre demain une journée exceptionnelle, je crois qu'on peut employer ce mot. C'est Dominique Merlin, cofondatrice du musée de l'archerie de Saint-Isère, qui est à l'initiative de cet événement. Toute la journée, vous pourrez découvrir l'art floral de l'ikebana, la calligraphie japonaise, et surtout, surtout, vous pourrez rencontrer Michel Martin, un éminent spécialiste du kyudo, ou tir à l'arc japonais. Mais alors attention, derrière ce terme se cache une discipline qui n'a que très peu à voir avec le tir à l'arc à la mode Robin des Bois. C'est tout un univers que j'ai commencé à entrevoir en rencontrant à la bibliothèque de Saint-Afrique Dominique Merlin et Michel Martin.
On peut commencer par une dizaine d'années au Japon, en deux séjours. Donc je suis parti après mon service militaire, 21 ans, pour le Japon en autostop. Et puis j'y suis resté 7 ans. Donc là j'ai rencontré les derniers grands maîtres des différentes disciplines qu'on appelle à tort les arts martiaux, mais ça ce sera peut-être un autre sujet. Mais en tout cas ce sont des voies, puisque toutes ces disciplines sont reliées par le terme do. Donc le plus connu c'est le ju. Do, la voie de la souplesse, le karaté do, qu'on appelle maintenant le karaté, le kyudo, qui est la voie de l'arc, dont j'ai fait ma spécialité principale.
Donc do, ça veut dire voie.
Do, ça veut dire voie en japonais et tao en chinois. Donc on remonte aux origines.
Qu'est-ce qui vous a attiré ? Pourquoi le Japon ?
Ça, c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Comment vous dire, quand j'avais 15 ans et que je me promenais dans Paris en mobylette, un jour j'ai vu une affiche « Vaincre ou mourir ». Et c'était une publicité pour les premiers cours de karaté-do. Et donc j'y suis allé, victime des affiches. Et puis un an après, j'ai rencontré un maître japonais extraordinaire qui est venu en France pendant un an nous enseigner. Et cet homme, ce maître-là, a changé ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai décidé, voilà, je cherchais une voie, un maître. Et là, j'ai trouvé, et c'est au Japon que je trouverai ce que je cherche.
Et donc, vous êtes spécialiste de l'arc japonais Kyudo, c'est ça, je prononce bien ?
Oui, c'est le Kyudo, c'est ça, oui.
Quelques mots peut-être sur cette discipline. On ira faire un tour du côté de l'exposition qui est visible à la bibliothèque de Saint-Afrique. Comment vous décririez cette discipline ? C'est pas un sport, c'est comment vous nous décririez cet art ?
Alors c'est pas un art non plus. Si on traduit textuellement, Kyudo, c'est la voie de l'arc. Alors l'arc était auparavant un instrument pour la chasse et pour la guerre, mais il a été utilisé très tôt pour les cérémonies également. Alors je dirais qu'à partir d'une discipline guerrière, qui est issue des arts martiaux, des 18 arts du samouraï, les Japonais l'ont transformé en une voie de réalisation, surtout grâce à l'influence qu'a eu le zen sur toutes ces disciplines. Donc le kudo est probablement la discipline qui a été le plus imprégnée par le zen, à tel point qu'au Japon, on dit que le kudo est du ritsu zen, c'est-à-dire la forme de pratique du zen debout, par rapport au zen assis qui est le zazen.
Donc c'est plutôt un art de vivre, presque, je dirais.
Et de mourir. Mais oui, c'est plutôt une ascèse, on va dire. Hein, parce que, encore une fois, bon, y a une différence entre l'art et la voix. La voix est une ascèse, donc c'est une façon de réaliser l'harmonie entre le corps et l'esprit.
Je me tourne vers Dominique Merlin, puisqu'on parle d'arc. C'est pas anodin si Michel Martin vient au château de Saint-Isère, parce que Dominique Merlin, le château de Saint-Isère, accueille un nouveau lieu dédié au tir à l'arc. Quelques mots là-dessus, sur ce musée ?
Oui, ben d'abord parce que s'il y a eu les voix japonaises, c'est parce que je connais Michel Martin à l'époque où mon mari et moi, nous étions facteurs d'arc, c'est-à-dire fabricants d'arc. Et donc, le musée est installé au château de Saint-Isère. Je l'ai donné à la mort de mon mari. Après la mort de mon mari, en 2006, je l'ai donné, enfin quelques années plus tard, le temps que je trouve la bonne communauté de communes. Et c'est la communauté de communes de Sainte-Afrique qui a accueilli le musée et qui a proposé d'installer au château de Saint-Isère, laquelle mairie de Saint-Isère a accepté. Voilà, donc maintenant, il est sur environ 100 mètres carrés. Il y a, pour l'instant, il y a 39 panneaux, mais il y en aura d'autres. Sont prévus prochainement un système de visite audio guidée, des vidéos sur la fabrication. Et donc, on se balade à travers l'histoire, entre la préhistoire à nos jours, dans tous les continents, sauf le sud de l'Australie, qui n'a pas tiré à l'arc.
Alors vous tirez à l'arc aussi ?
Oui, j'ai même été enseignante de tir à l'arc occidental. Voilà. J'ai pratiqué le kyudo aussi, mais à Montpellier, parce qu'il n'y avait pas de kyudo en Aveyron, donc il fallait aller fort loin. Et donc, mais enfin, suffisamment pour savoir ce que c'est.
Et alors, est-ce qu'il y a des points communs entre la pratique du tir à l'arc occidental et japonais ?
Pas beaucoup. Quelques-uns. Parce que quand même, quand on tire, enfin quand on enseigne le tir à l'arc occidental et qu'on pratique le tir à l'arc japonais, enfin le kyudo, parce que tir à l'arc, il n'aime pas beaucoup. Monsieur Martin n'aime pas beaucoup cette définition-là. Pour moi, ça a été beaucoup plus facile le fait d'avoir tiré déjà à l'arc occidental au niveau des ouvertures du corps, de la pratique. C'était beaucoup moins dur, mais il y a énormément de choses qui changent, et en particulier de fait cette histoire de zen, parce que c'est une pratique qu'on peut appeler spirituelle. On peut tirer deux flèches en une demi-heure dans le kyudo, alors que ça, il n'y a pas beaucoup de tireurs occidentaux qui accepteraient de passer plus de temps à faire des pas, à élever l'arc et tout, qu'à tirer leurs flèches. Donc ça diffère énormément.
Alors Michel Martin, on peut tirer deux flèches en deux heures. Quelle est la signification alors de tirer une flèche si on prend autant de temps ?
Justement, une des particularités du kudo, c'est que le but n'est pas la cible, mais soi-même. Donc la préparation est très importante. Il faut se référer, si vous voulez, à la tradition chinoise, puisque c'est l'origine du kudo. Et dans la tradition chinoise, l'épreuve de l'arc faisait partie d'une des épreuves les plus importantes pour être un lettré, un mandarin en Chine. Et lorsque les postulants se préparaient à cette épreuve, on les notait surtout sur leur prestance, sur l'esthétique, sur les rapports avec l'environnement, leur rapport avec l'empereur, l'harmonie entre le ciel et la terre, et bien plus que sur un quelconque résultat à la cible.
Dominique Merlin et Michel Martin ont préparé une exposition pour l'occasion. Elle a passé quelques jours à la bibliothèque de Sainte-Afrique avant de rejoindre le château de Saint-Isère dès demain. Cette exposition est un hommage à Michel Random. Michel Random, c'était un journaliste. Il a contribué à faire connaître la philosophie et l'univers des disciplines comme le kudo à travers son livre « Les arts martiaux ou l'esprit du budo ».
«
Alors on s'arrête devant ce premier panneau avec deux photos, la vôtre et celle de Michel Randon.
Cette exposition, comme l'indique le chapeau, si vous voulez, est un hommage à Michel Randon qui nous a quittés en 2008. Et puis, c'était au départ une idée de Michel Randon. Il a donc utilisé le nombreux matériel photo que j'avais ramené du Japon. Et il a monté cette exposition qui n'a pas énormément tourné. Mais là, on se souvient qu'il y a eu une inauguration au Centre américain où nous avions, à Paris, où nous avions monté le premier dojo de Kyudo en France et sûrement en Europe. Et donc à cette occasion, on voit qu'il y avait déjà une exposition de photos Michel Randon et Michel Martin. Donc je pense que pour commencer, sous les auspices de Michel Randon, on peut commencer à circuler dans ce monde mystérieux du Kyudo.
On passe à la photo suivante, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Alors, elle est représentative. Ça devient presque une image d'Épinal. C'est une photo qui a été réalisée au Japon par Marussia, qui était la femme de Michel Randon, et lors du tournage de son film sur les arts martiaux ou l'esprit du Budo, et qui a connu un énorme succès. Donc, Dominique et moi, on a pensé que ce serait une image représentative à la fois du zen et du kudo, puisque le maître qui est en train de tirer est un moine zen et un maître de kudo.
Il y a une sérénité qui se dégage de cette photo.
C'est extraordinaire. Bon, sans faire de jeu de mots, c'est une ombre chinoise, mais elle est très présente. Alors ici, oui, on a une idée déjà de la lignée avec Maître Awa qui est déjà plus âgé, donc qui était le maître fondateur du Kudo moderne. Un de ses trois disciples, Anzawa Sensei, qui était mon maître. Donc j'ai eu la chance au Japon de rencontrer Anzawa Sensei et d'être son disciple. Ça, c'est dans son jardin que cette photo a été prise, jardin de Maître Anzawa, qui était Ranchi, 10e Dan. Ranchi qui est le plus haut titre honorifique. Ce maître est maître Onuma, 8e Dan Ranchi, qui a beaucoup contribué au développement du Kudo en Occident. Ça n'a pas été du tout facile parce que les Japonais étaient très conservateurs, ils ne voulaient pas se déplacer. Et ça a été très compliqué, mais comme c'était un homme très important, avec beaucoup d'appui politique et qui parlait anglais, donc il a beaucoup œuvré toute sa vie pour le développement du Kudo.
Vous êtes nombreux les Occidentaux à pratiquer le Kudo ?
De plus en plus nombreux. La Fédération française du Kudo traditionnel, qui a son siège à Montpellier, regroupe 650 licenciés.
Et comment on est accueilli au Japon quand on est un Occidental et qu'on a envie de pratiquer le Kudo ?
Écoutez, un des premiers disciples et le seul disciple étranger de Maître Awa, Erigel, qui a écrit un livre très connu, très fameux, « Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc », a écrit dans son livre toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. À cette époque-là, c'était très difficile. Et à mon époque, c'était pas facile non plus. Les dojos étaient extrêmement fermés. Les Japonais ne parlaient pas de langues étrangères, étaient très effrayés de ne pouvoir communiquer avec les Occidentaux. Pensaient que les Occidentaux étaient très loin de pouvoir comprendre l'esprit du Kudo. C'était très compliqué. Maintenant, ça a beaucoup évolué, grâce en particulier à Maître Onuma.
Quand on devient disciple d'un maître, quand est-ce qu'on sait que la formation est accomplie ?
Jamais. Elle n'est jamais accomplie puisque on doit dépasser le maître et en général le maître décède avant qu'on ait réussi à le dépasser. Donc c'est... Bon, Maître Onuma disait que le Kudo, en anglais, il disait « Kudo is an endless effort ». Donc c'est une voie qui à la fois demande des efforts considérables et qui est sans fin. Donc c'est à la fois réjouissant et puis c'est ce qui montre que bon, dans la voie du zen, il n'y a pas de limite. Si on cherche le résultat à la cible, on rencontre toujours une limite, à part celle-ci bien sûr, qui est l'exception qui confirme la règle, mais il y a toujours une limite, on a toujours quelqu'un qui est plus fort, on dépasse toujours sur un plan sportif. Mais là, on n'est plus sur un niveau sportif. Et alors, en dessous, donc, on a deux photos. Alors, on a une photo d'un vieux maître qui, à 96 ans, venait tous les matins, tout seul, avec son matériel pour tirer sa flèche quotidienne. Et je trouve ça extraordinaire parce que, vous voyez, maintenant, dans le sport, on devient vieux de plus en plus jeune. Quand on voit les gymnastes ou les gens qui font de la natation à un très haut niveau, bon, moi j'ai l'exemple de Nina Kovanici, qui était cette fabuleuse gymnaste roumaine, qui dès qu'elle a commencé à devenir femme, à 16 ans, elle était vieille. Et donc sa carrière s'est interrompue très tôt, alors qu'on voit donc dans des disciplines comme le Kyudo, des maîtres à 96 ans qui continuent à tirer. Ça c'est une belle leçon de la différence entre un aspect sportif, poussé à l'extrême évidemment dans la compétition de haut niveau, et puis une discipline qui travaille sur l'énergie, sur la posture, sur la verticalité, la respiration, et qui permet donc, vous voyez, sans force, de continuer à tirer jusqu'au dernier souffle.
Alors Michel Martin, on pourrait rester des heures, j'ai plein de questions encore sous mon chapeau, mais je ne vais pas pouvoir les poser. Donc peut-être qu'avec Dominique Merlin, on pourrait revenir sur le programme de la journée de samedi au château de Saint-Isère, où vous aurez certainement le loisir de partager avec Michel Martin tout cet univers. Alors Dominique.
Alors bon, dans cette journée, on commence par de l'ikebana, c'est-à-dire de l'art floral, c'est la voie des fleurs au Japon. Donc ça, c'est de 9h30 à 11h30. Ensuite, il y a une démonstration de kyudo, un petit temps, le temps que monsieur s'habille, se costume, 12h15 à 12h45 environ. Donc une démonstration de kyudo. Ensuite, c'est le repas. Alors c'est un repas japonais, presque entièrement bio, fait par Marie-Vonne Jaffrelo, qui s'occupe d'équilibre alimentaire et de nourriture biologique. 14h30, il y a la visite guidée du musée de l'archerie, jusqu'à environ 16h. Et à 16h, il y a de la 16h30 de la calligraphie, 16h30 à 18h. Donc là, c'est Michel Martin qui s'occupe de l'ikebana et de la calligraphie.
Bon, ben on espère vous retrouver nombreux au château de Saint-Isère samedi. Moi, j'y serai bien sûr. Merci Michel Martin, merci Dominique Merlin.
Merci à vous.
Escapade Nippon, acte 2. On quitte le château de Saint-Isère pour le lieu-dit qui revêtira son plus beau kimono demain soir grâce à Kotoé.
Domo konnichiwa. Watashi wa Maki no Kotoé desu. Nihon kara kimashita. Soshite ima wa Santa Frick ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu.
Donc nous sommes avec Kotoé qui est japonaise. Alors qu'est-ce que tu viens de nous dire là ?
Bonjour, je m'appelle Kotoé Makino. J'habite à Saint-Afrique maintenant et je viens du Japon et enchanté.
Enchanté Kotoé, tu habites au Moulin de Lin plus précisément.
Oui, c'est ça.
Demain soir, tu organises un atelier d'origami. De quoi s'agit-il ?
Ça c'est une technique de pliage de papier. Et à la base, c'est culture japonaise. Et là, depuis, je pense que quelques années en France, c'est un peu la mode. Enfin, beaucoup de gens qui connaissent maintenant. On fait des oiseaux, on peut faire plein de choses. En plus, on peut faire pour la table aussi. Donc il y a plein de techniques différentes.
Bon, c'est une technique de pliage de papier pour de la décoration, surtout. Après ça, tu vas faire un repas. Tu prépares des sushis, c'est ça?
Oui, c'est ça. Sushi, mais c'est pas que de sushi. Quand même, moi, j'avais envie de présenter la culture japonaise à la base. Bien sûr que sushi, c'est très connu que tout, quoi. Donc, première fois, je vais faire sushi, mais après, je vais faire bien sûr que d'autres cuisines traditionnelles japonaises.
Donc, demain soir, il y a une soirée japonaise au Ludi. Dans le programme, tu devais faire une conférence sur la situation du Japon et sur le fait que tu accueilles des personnes. On en parlera plus tard. Et tu me disais en aparté que tu n'auras peut-être pas le temps de faire cet échange avec les gens qui seront là parce que tu vas enchaîner l'atelier, la cuisine. Donc, voilà, on le dit pour les auditeurs qui vont pour la conférence, c'est pas sûr que ça y soit.
Oui, c'est ça. Au début, on avait envie de faire conférence, mais voilà, je dois un peu concentrer sur la cuisine aussi. On va projeter des photos de quand même après histoire de tremblement de terre et accident de nucléaire. Et ensuite, quelques témoignages de Japonais qui a écrit des choses. Et ensuite, on va montrer quelques documents quand même sur radiation. Les gens qui ont envie de me parler, bien sûr que je peux parler avec les gens, mais ça ne sera pas conférence, je pense, parce que je n'ai pas le temps. Vraiment désolé. Hein.
Vous pourrez parler à Kotoé le soir, même si elle aura les mains dans la cuisine, elle vous répondra certainement. Donc Kotoé, toi ça fait 10 ans que tu t'es installée en France. Pourquoi t'as quitté le Japon? Pourquoi tu es venue t'installer ici?
Pourquoi je suis quittée au Japon? Parce que j'étais avec un Japonais, on était mariés. Et il a décidé de prendre formation de cirque en France. C'est pour ça que je suis venue au départ. Ensuite, pourquoi Centrafrique? Parce qu'il y a longtemps, je suis venue au Moulin de Lon et je suis tombée amoureuse là-bas. Et donc, je me suis dit, un jour, je voulais vivre là-bas. Et après l'histoire de tremblement de terre de Japon, je me suis dit, c'est vrai que moi aussi, c'est possible que je vais mourir demain. Donc si c'est ça, je veux vivre la terre que je veux vivre. Alors, j'ai décidé de venir ici.
Tu as raison, c'est vrai que le Moulin de Lin, c'est un très joli coin. Donc toi, j'imagine que tu as encore ta famille qui est au Japon. Du coup, tu dois être pas mal au courant de ce qui se passe après Fukushima. Est-ce que tu peux nous en parler?
Par rapport au Fukushima? Oui, là, par exemple, il y a beaucoup de radiation dans Fukushima, même Tokyo aussi. Et avant-hier, j'ai regardé encore des infos. Et là, presque dans le Japon, partout, c'est radié. Donc là, maintenant, si les gens qui ont envie de manger bien, normalement, moi, je pense qu'il faut quitter le Japon, quoi. Parce que je pense qu'il n'y a presque plus de nourriture saine. Mais c'est très difficile de décider de quitter le pays. Donc je comprends, mais en même temps, moi j'ai envie de protéger les Japonais. Alors j'ai commencé de organiser un peu avec les gens. Si les gens ils ont envie d'accueillir un peu les Japonais, je propose les Japonais de venir un peu en France. Parce que je me dis, tout seul, je ne peux pas faire tout pour tout le monde. Mais s'il y a les gens qui s'intéressent d'accueil un petit peu les Japonais, on peut aider quelques peut-être familles ou plus de familles, j'en sais rien, mais je veux être lien avec les gens.
Tu as déjà accueilli des familles chez toi, non?
Oui, parti de mi-juillet jusqu'au mi-octobre. Voilà, ils étaient là pendant 3 mois.
Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Comment ça se passe pour eux?
Ça a été très très difficile quand même parce que sa fille, elle avait 13 ans. Sa maman, elle était déjà consciente de manger bien à la base. Et après, histoire de radiation, elle a cherché beaucoup à nourriture bien quoi. Mais en fait, c'était tellement galère et elle avait trop de stress. Et puis finalement, sa fille, elle était un peu tombée malade à cause de la radiation. C'est pour ça qu'elle a décidé de venir en France, plus loin du Japon.
Elle va s'installer ici, cette famille?
Non, en fait, au départ, elle avait envie d'habiter soit en France, soit en Angleterre, n'importe, mais en Europe. Mais sauf que ça commençait un peu problème dans la famille, donc elle a décidé de rentrer. Avec elle, j'ai appris qu'on peut fabriquer des trucs pour protéger nos corps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les gens, après Tchernobyl, ils ont étudié plein de choses. Donc, ils ont trouvé un liquide fermenté, on peut faire soi-même. Et avec ça, si même ton corps qui est radié, si tu bois tous les jours, on peut guérir vraiment radiation de corps. même la terre. Donc voilà, peut-être samedi, je vais montrer quelques documents, comment il faut fabriquer des choses, quoi. Les Japonais, il y a beaucoup de mouvements d'arrêter complètement nucléaire. Mais sauf qu'un problème, c'est que radiation, ça se voit pas. Donc si on a envie de vivre normalement, bien sûr qu'on peut vivre normalement. Voilà, donc il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils sont conscients, mais ils ont peur d'accepter ou quelque chose, j'en sais rien. Et donc il y a beaucoup de gens qui vivent comme il n'y a rien à passer. Et il y a les gens, ils ont peur de radiation, donc qui bougent beaucoup. Donc en fait, il y a les gens qui sont beaucoup action, mais l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas l'action. Et ces gens-là qui sont en train de juger pourquoi tu as peur de radiation, ah, c'est nul, enfin, il n'y a pas de problème et tout. Qui croient qu'il n'y a pas de problème parce que ça ne se voit pas. Donc il y a beaucoup de, comment dire, décalage entre les gens, même dans la famille, entre le couple. Voilà, donc je ne sais pas, c'est un peu difficile d'expliquer comment ça se passe, quoi. Mais pour ça aussi, enfin, pour ça que j'ai fait la traduction un peu de témoignages de japonais, comme ça je pense que vous pouvez savoir un petit peu plus précise.
Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin?
Oui, en fait, samedi, je commence de, voilà, plein de choses sur culture japonaise. Et ensuite, partie de novembre, je vais faire très régulier sur la culture japonaise. Donc, je vais faire mercredi des ateliers pour les enfants et adultes. Et puis, voilà, j'essaie de faire la cuisine comme ça aussi une fois par mois. Et mois de décembre, ma mère, elle va venir. Donc, je pense que ma mère aussi, elle va faire la cuisine de maman, quoi. Voilà.
C'est super, et surtout que c'est une culture qui est assez étrange, moi qui me passionne un peu, parce qu'ils sont à la fois, ils ont le côté zen, japonais, enfin c'est des gens qui ont vraiment une prestance, quelque chose, et de l'autre ils sont à fond dans le travail, quand même dans la pollution, ils ont, je trouve que c'est très contrasté, c'est assez contradictoire même là, cette culture.
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'on, enfin, un peu partout comme ça aussi aujourd'hui. Même en France maintenant, il y a des gens qui sont très calmes, ils sont zen quoi. Donc là, on peut pas dire que de japonais, je pense. C'est un peu partout.
Merci Kotoe. Comment dit-on au revoir en japonais?
Au revoir, sayonara.
Très joli ça, sayonara.
Sayonara, arigatou gozaimashita.
Vous avez peut-être reconnu la voix d'Elsa Decour qui a réalisé cet entretien avec Kotoe, donc une japonaise qui vit dans le sud d'Aveyron. On peut lui dire chapeau pour son français quasi irréprochable. Alors moi je ne sais pas comment on dit rouge-gorge en japonais. La seule chose que je sais, c'est que c'est le titre de l'atelier de couture, la rubrique de Nino.
Prolo ordinaire, peuple de Paris, rouge-gorge et fier d'être né ici. Quartier populaire, bistrots et bougnats, et marché couvert, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard, autour de son cou, rouge sa mémoire, à jamais debout. Rouge-gorge chante le temps des cerises dans les rues vivantes, lorsqu'un jour arrive le temps des noyaux et des bulldozers et des vrais salauds en costume clair, quelques sous-ministres attachés caisse et mine sinistre, l'âme versaillaise décrète trop vieux tout ce quartier-là, il foutra le feu si le vieux s'en va pas. Rasé la maison, détruit l'atelier, les cages en béton les ont remplacées. Adieu réverbères, ampoules au plafond, bonjour la lumière des tristes néons. Chasser les prolos et chasser la vie, parkings et bureaux ont bouffé Paris. Les petites gens sont des gens sérieux, iront gentiment peupler les banlieues. Chanteur rouge-gorge, le temps des cerises, Savigny-sur-Orge paraîtra moins grise. Chante aussi Paname que les assassins ont livré aux flammes sans brûler leurs mains. Chante la mémoire que doit nous préserve de Paris le soir avant qu'elle crève. Chante la bâtarde Paris la soumise que Renaud regarde et qui agonise.
Rouge-gorge, les ogres de Barbac et Renaud, c'était la chronique rubrique de Nino, l'atelier de couture. Alors je sais, cette émission est consacrée aujourd'hui au Japon, mais j'ai reçu une visite et franchement, j'ai pas pu résister. Derrière ce morceau de Via la Roue se cache Françoise Bois-Potter qui est aujourd'hui avec moi en studio. Bonjour Françoise Bois-Potter.
Bonjour.
Merci de partager cette émission consacrée aujourd'hui donc au Japon. Alors la Via la Roue a priori ça n'a aucun rapport, mais hors micro vous m'avez quand même expliqué qu'on peut tisser un lien entre la Via la Roue et le Japon, s'il vous plaît.
Oui, oui, tout à fait, parce que j'ai des bourdons et que je me fais faire par le laboratoire d'acoustique musicale de Jussieu. Et ils ont pris le principe de fabrication de cordes, des cordes de koto japonaises.
Qui est un instrument de musique japonais.
Exactement.
Voilà, donc on est dans la thématique, tout va bien. Françoise Bois-Potter, vous êtes ici au nom de l'association La Vielle dans tous ses états pour présenter cette association aux auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les objectifs de cet asso et puis qu'est-ce que vous faites, qui y participe?
Tout à fait. Alors, elle a été créée sur le plan national. Elle était dans la région centre en 1989. Et l'idée, c'est d'abord la recherche musicale. La recherche musicale d'un sujet qui n'est jamais traité au CNRS, par exemple. Et du coup, le ministère de la Culture nous avait poussé à monter cette association. Donc, c'est les recherches, c'est le patrimoine musical, particulièrement des 17e et 18e siècles, mais pas le grand patrimoine habituel avec les opéras, mais toutes ces musiques populaires et qu'on rencontrait aussi dans les salons. Et du coup, on part d'abord du corpus musical de la Vielle. Puis ça s'est étendu, on a quitté la région centre et on est maintenant sur trois régions différentes, le Languedoc-Roussillon, le Midi-Pyrénées et la région PACA.
Concrètement, ça consiste en quoi faire de la recherche musicale?
Alors, ben moi, c'est moi qui la dirige. Il n'y a pas que moi, mais c'est particulièrement moi qui la dirige. C'est-à-dire que je suis partie dans les bibliothèques pendant 10 ans. J'ai acheté tous les microfilms du répertoire de Vielle du XVIIIe siècle. Et pour l'étudier, on a fait faire un logiciel de base de données qui recherche sur la musique. Et donc, on a rentré tout ça sur l'ordinateur. À l'époque, c'était absolument incroyable. Et donc, on a une banque de données qui s'appelle CITER, pour le plaisir. Et du coup, avec une autre banque de données qui s'appelle Anecdota, ça, c'est le rapport avec l'histoire. Et ça a 15 000 fiches et des mélodies qu'on rencontre un peu partout dans toutes les époques et surtout dans les pays du Nouveau Monde particulièrement.
Ce qui veut dire que dans les archives des bibliothèques privées, il peut se cacher des partitions plus ou moins anciennes?
Ah oui, oui, tout à fait. Là, enfin, pour le 17e, 18e siècle, je ne travaille que sur des partitions du 17e, 18e siècle. D'ailleurs, je ne le recopie pas. Par contre, ce qu'on a sorti cet été, c'était justement une réédition de quelques partitions de musique, ce qu'on va continuer à faire, puisqu'en fait, maintenant, il y a une demande, si vous voulez. Mais je n'aime pas quand les gens prennent des mélodies pour les jouer sans savoir ce qui se passe autour. Donc, ce qui m'importe, c'est que les gens apprennent l'histoire générale, l'histoire des anecdotes, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, l'histoire de la danse, pour pouvoir après interpréter toutes ces musiques.
Donc vous replacez un petit peu l'histoire de la Via la Roue dans l'histoire plus globale.
Oui, oui, mais la Via la Roue, c'était un départ, et puis après, c'est les musiques de salon, les musiques populaires. Hein. Après, il n'y avait pas de la musique pour un instrument à l'époque. C'est après, au 19e siècle, qu'on a fait de la musique pour des instruments particuliers.
Et les partitions les plus anciennes qu'on ait retrouvées de Via la Roue, est-ce que vous savez à quand elles remontent?
Ben, il ne faut pas aller chercher des partitions de Via la Roue, à part le XVIIIe siècle où ils ont adapté des mélodies qui était joué un peu partout, aussi bien dans les rues à Paris que dans les salons. Là, à ce moment-là, ils l'ont adapté à la vielle, à la cornemuse, parce que c'était la mode et que c'était comme ça qu'ils allaient le vendre. Il faut plutôt aller chercher des musiques. Pour faire de la musique d'amusement, je vais chercher des cantiques. C'est logique. Hein.
Et donc, vous pouvez quasiment tout jouer à la vielle.
Ah non, tout ne se joue pas. Non, non, c'est très précis parce que la vielle est un instrument modal. On ne peut pas tout jouer. Il n'y a pas de modulation, si vous voulez. C'est les bourdons qui donnent le ton. Mais ça a une certaine richesse déjà musicale assez importante.
Alors, votre association, dans le coin, j'allais dire, en sud d'Aveyron, et d'abord on va s'intéresser à notre territoire, qu'est-ce que vous proposez avec votre association ?
Eh bien, depuis 2002, tout simplement, on m'a demandé de donner des cours de vielle. J'ai cru que j'allais donner des cours de vielle à partir du répertoire traditionnel, donc du 19e siècle. Et peu à peu, on m'a dit non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Moyen-Âge. Ce qui nous intéresse, c'est la Renaissance, le 18e siècle. Bon, ils mélangent un peu tout, la Renaissance et le Moyen-Âge. Et en fait, je me suis aperçue que les gens avaient envie d'aller jouer dans des lieux patrimoniaux du coin. Et souvent... Évidemment, les lieux patrimoniaux peuvent dater du Moyen-Âge, mais on mélange un peu tout et on va faire du traditionnel dans des milieux du Moyen-Âge. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que les gens resserrent un peu plus leur approche historique quand ils font des animations dans ces lieux patrimoniaux.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de... On dit comment d'ailleurs, les personnes qui jouent de la vielle ?
Alors, au XVIIIe siècle, c'était les joueurs de vielle, ou les vielleurs, les vielleux, mais ça s'écrit les vielleurs. Mais à l'époque, on ne prononçait pas le R, donc c'était vielleux. Et puis après, on a inventé, au début du XXe siècle, on a inventé un mot, c'était vielliste. Mais tout ce qui finit par iste, violoniste par exemple, tout ça, ça date du XIXe siècle. C'est pour les gens qui ne veulent pas, qui supportent pas de jouer de la musique populaire. Alors que moi, que ça soit populaire ou savant, ça me plaît autant.
Alors, si j'ai envie d'apprendre à jouer de cet instrument, qu'est-ce que vous me proposez, Françoise Boisputa ?
Alors, je propose, si vous ne connaissez pas du tout l'instrument, je propose des cours carrément techniques à Millau, à Sévrac, à Novice. Et puis parallèlement, dans les cours, ça déborde obligatoirement sur le côté historique. D'abord, la connaissance de l'écriture de la musique. Mais bon, prendre des cours de solfège pour dire un jour je vais faire de la musique, je ne sais pas trop mon truc. Je me mets plutôt à l'inverse, je les mets devant l'instrument, je leur explique comment bouger les doigts et puis par la même occasion on leur dit, tu vois, c'est écrit comme ça, tu vois, et petit à petit ils finissent par apprendre à lire la musique sans le leur dire, hein, surtout.
Et au niveau concret, les cours sont à rythme régulier, oui. Ou alors il faut vous envoyer un mail pour en savoir
non,
plus.
Non, ils sont réguliers. Ils sont réguliers, ils sont à la hauteur de 2 cours par mois, chaque 15 jours en gros. Par exemple, ceux de Millau se passent le jeudi après-midi, parce que c'est au Créa et on a une salle au Créa le jeudi après-midi. Ceux de Novice et de Sévrac sont plutôt le samedi, et même je pars aussi en Lozère pour en donner le vendredi après-midi. Et le planning se fait d'une manière précise et qui ne bouge plus, un peu chaque trimestre, si vous voulez, un mois avant chaque trimestre, comme ça on case le... Et une fois par trimestre, il y a aussi des ateliers pour ceux qui ont envie de jouer ensemble. Alors, ou bien ils sont capables de jouer ensemble et donc c'est vraiment des ateliers de musique et d'interprétation. Ou bien ils n'y arrivent pas encore et à ce moment-là, ils se mettent tous ensemble pour apprendre la technique. Ça leur fait pas mal d'être un peu stimulés.
Alors, Françoise Boisputa, on n'a pas parlé de vous. Comment vous avez rencontré cet instrument qu'est la vielle à roue ?
Ah oui, alors moi j'ai une formation universitaire d'histoire, histoire de l'art et archéologie. Puis après, j'avais commencé à faire de la musique à 4 ans. Et puis après, j'ai eu ma médaille d'or. Alors j'ai incité, puisque j'étais dans la région centre, j'ai incité le ministère de la Culture à ouvrir une classe de vielle. Donc c'était en 1977 à Châteauroux. Du coup, j'ai eu la médaille d'or de vielle. Puis j'ai voulu continuer mes recherches. Et là, je suis rentrée à l'école pratique des hautes études en musicologie.
Ben écoutez, on est entre de bonnes mains. Françoise Boisputa, je vous remercie.
Merci.
Françoise Boispotter et Xavier Larroux. Si vous souhaitez plus de renseignements, ben, il suffit de nous passer un petit coup de fil à la radio, on vous donnera ses coordonnées. Je suis navrée de vous annoncer que Vivement Sushi qu'on bouffe, ben, c'est fini. Je vous rappelle donc la journée japonaise à Saint-Isère demain à partir de 9h30 pour l'atelier Ikebana. À midi, démonstration de Kudo suivie du repas japonais. Et l'après-midi, visite guidée du musée de l'archerie et puis un atelier calligraphie. Et à Saint-Aff, toujours demain, mais au lieu dit à partir de 17h30, un atelier origami pour les enfants. Et à 19h, des sushis et une conversation avec Kotoé. Côté musique, vous avez pu écouter aujourd'hui Un gamin de Zoufris Maracas. C'était un des CD de la semaine. Dans l'atelier de couture, la chanson Rouge-gorge rapiécée avec des morceaux interprétés par Renaud et par les Ogres de Barbac. Merci à Françoise Boispotter, Kotoé, Elsa Decour et Nino d'avoir partagé cette émission avec moi aujourd'hui. Merci à Manu qui aurait bien voulu être là mais qui n'a pas pu, saleté d'émetteur qui nous a lâché ce matin. Merci bien évidemment à Z aux manettes.
Merci à Audrey Barat.
C'est fabuleux. Fabuleux, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est le Japon qui t'inspire comme ça, mais Z parle dans un micro, je suis trop contente. Merci Z, je passe un bon week-end.
Merci à toi, Audrey.
Vivement ce soir qu'on se couche. C'est le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi à 11h10. C'est rediffusé à 17h10. Et contrairement à ce que je viens de vous dire, eh ben, lundi, on ne sera pas là pour cause d'allergie aux chrysanthèmes. Mais pas de panique, vous aurez tout le loisir de faire plaisir à vos oreilles en écoutant un reportage réalisé par l'équipe de Faidos Sonore. Il sera question d'alpage, de berger et de quadrupède à laine. Je vous dis à mercredi prochain. Bon week-end !